Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
Les nuages font partie de notre quotidien. Ils flottent au-dessus de nos têtes, familiers et insaisissables. Ils dessinent le ciel, mais derrière leur forme poétique, ils remplissent de nombreuses fonctions bien plus importantes qu'on ne l'imagine. Les nuages participent à l'équilibre de la température sur Terre, au cycle de l'eau et donc au climat. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils restent complexes à comprendre. Les scientifiques se demandent si leur comportement est en train de changer avec le réchauffement climatique. Et pour en parler, nous recevons cette semaine Sandrine Bonny, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des nuages dans le système climatique. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2023 et donc avec vous, nous allons tenter aujourd'hui de dissiper le brouillard et mieux comprendre ce que les nuages nous disent. Mais avant toute chose, on peut peut-être rappeler de quoi est composé un nuage. Je vais le dire simplement et puis vous allez me corriger si besoin. Un nuage, c'est un concentré de gouttelettes d'eau dans le ciel. C'est un bon point de départ, ça.
C'est ça, c'est un concentré de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, selon la température, et qui se forme donc par la condensation de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air.
Et ces nuages, j'imagine qu'ils ne viennent pas de nulle part. Ils participent au cycle de l'eau. Ils viennent d'où ? Ils viennent de l'eau des lacs, de nos rivières, des mers, c'est ça ?
Alors en fait, ils se forment dès qu'il y a de la condensation de la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air. Donc la vapeur d'eau qui est dans l'air, elle provient de l'évaporation à la surface notamment. Mais ensuite, la vapeur d'eau qui est dans l'air se condense lorsque elle atteint son point de condensation, la saturation, ce qui se produit en fait le plus souvent lorsque une masse d'air se refroidit. Et le plus souvent, une masse d'air se refroidit lorsqu'elle s'élève. Alors, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles une masse d'air s'élève. Ça peut être un soulèvement en masse quand, par exemple, une masse d'air passe au-dessus d'un relief. Ça peut être quand on a deux grandes masses d'air d'origine tropicale, extratropicale, qui s'enroulent l'une autour de l'autre. Comme il y en a une qui est plus chaude, plus humide, elle va avoir tendance à monter sur la plus froide et plus dense. Et donc, en montant, elle se refroidit. Ça forme des nappes de nuages qui peuvent être très, très étendues. Et puis, une autre raison pour laquelle la condensation se produit, c'est quand on a des mouvements qu'on appelle convectifs, c'est-à-dire quand il y a une masse d'air qui est moins dense que son environnement, donc elle tend à s'élever, parce que cette masse d'air est plus humide ou plus chaude que son environnement. Et donc elle s'élève dans l'atmosphère, et quand elle atteint le niveau de condensation, elle forme un nuage. Voilà, et selon les conditions de l'environnement, ce nuage peut s'élever plus ou moins haut dans l'atmosphère. Donc parfois, elle s'élève que de quelques centaines de mètres, parfois de quelques kilomètres. Parfois, dans les tropiques, elle peut s'élever jusqu'à 15 kilomètres ou parfois même plus. La présence de nuages dépend de ces mécanismes soulèvent l'air, qui sont très liés au mouvement de l'atmosphère, en fait. Et puis, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel l'élévation de cette masse d'air se produit. Ça dépend pas mal de l'humidité ambiante, parce qu'un nuage qui se développe dans une atmosphère qui est assez sèche autour va rapidement mourir, en fait. Il va se détruire par des petits mouvements turbulents qui se produisent à la surface du nuage et qui engouffrent de l'air sec environnant dans le nuage. Et donc, ça réévapore les gouttelettes nuageuses et donc ça détruit le nuage.
Ça fait disparaître le nuage.
Voilà. Alors qu'un nuage qui se développe dans de l'air humide va pouvoir se développer verticalement beaucoup plus facilement. Ça dépend aussi de la présence de couches d'air stables dans l'atmosphère. Et il y en a à plusieurs étages dans l'atmosphère. Quand un nuage rencontre une couche d'air stable, il va avoir du mal à la traverser et il va s'étaler sous cette couche d'air stable, ce qui va former des nuages beaucoup plus stratiformes et un peu comme si le nuage était sous un couvercle. Voilà. Donc il y a plein de facteurs qui font que les nuages peuvent prendre différents aspects, en taille horizontale, verticale, en forme, etc.
Oui, ça, le mécanisme de condensation est toujours le même. Mais comme il y a plusieurs facteurs, ces différents facteurs vont expliquer les formes multiples que peuvent prendre les nuages.
Exactement.
Quand on regarde dans le ciel, il y a des nuages plus ou moins denses, d'autres qui sont très...
Certains très morcelés, d'autres très étendus. Voilà. Ça dépend beaucoup, ça traduit essentiellement l'origine de la condensation, en fait.
Alors, je pense, par exemple, aux nuages qu'on peut observer, les nuages qui sont très touffus, qui ont la forme de chou-fleur, par exemple.
Sont des nuages qui sont d'origine convective, justement. Donc, c'est quand de l'air moins dense que son environnement s'élève, et donc ça forme des petits cumulus de beau temps, si jamais c'est...
Ce sont des cumulus.
Ce sont des cumulus, voilà. Et ensuite, selon leur développement vertical, ils peuvent avoir différents petit nom en plus, mais donc des petits cumulus de beau temps, sont des nuages qui se forment quand les mouvements turbulents qu'il y a près de la surface atteignent le niveau de condensation. Donc là, on forme un petit nuage qui fait quelques centaines de mètres horizontalement et verticalement. Et puis, si les conditions sont favorables, ce nuage va se développer un petit peu plus. Il va pouvoir monter jusqu'à quelques kilomètres. On va appeler ça un congestus. Il atteint 4-5 kilomètres. Et puis, s'il se développe carrément jusqu'en haut de l'atmosphère, on va appeler ça un cumulonimbus. Et ce sont des gros nuages d'orage. Et quand ce cumulonimbus atteint la couche stable qui est en haut de l'atmosphère, il va s'étaler et former ce qu'on appelle une enclume, qui va former un nuage très étendu, sur des centaines et milliers de kilomètres.
Est-ce qu'on sait combien de catégories de nuages il existe au total ? Est-ce qu'on parle de centaines de catégories, d'une dizaine de catégories ? Il y a des sous-catégories aussi,
j'imagine ? Il y a des grandes familles, et ensuite, au sein de chaque famille, il y a des déclinaisons qui dépendent des conditions environnementales. Donc, on peut en trouver autant qu'on veut, ça, tout dépend du niveau de détail qu'on considère. Quoi.
Et est-ce qu'il y a un nuage plus fréquent que d'autres ? Là, on a parlé du cumulus.
Alors, les plus fréquents, c'est les nuages, les petits cumulus, oui. Notamment parce qu'au-dessus des régions océaniques, ce sont les nuages vraiment qui sont de loin les plus fréquents. C'est dans toutes les zones des régimes d'Alizée, notamment, sont couverts de ces petits nuages qui sont tout petits. Hein, ils ne payent pas de mine, mais ils couvrent l'essentiel des océans.
Ce sont les plus fréquents.
Il y en
sur
a aussi
les océans.
Un petit peu sur Terre. Voilà. Les nuages, les grands nuages convectifs type cumulonimbus sont beaucoup moins fréquents. Par contre, quand ils sont là, on ne manque pas de les remarquer parce qu'ils ont... ils sont associés à des pluies, des précipitations importantes. Ils sont très majestueux, ils peuvent donner de l'orage, etc.
Oui, parce qu'on peut prévoir le temps à venir à partir de l'observation des nuages, enfin de certains
Alors,
nuages.
Historiquement, l'observation des nuages s'est développée pour des fins de météorologie, de prévision du temps, parce qu'on avait noté que le type de nuage en présence renseignait sur l'évolution de l'atmosphère. Et ça, c'est parce que les nuages, comme je le disais tout à l'heure, sont très liés au mouvement de l'atmosphère. Et donc, le type de nuage en présence, sa forme, etc., renseignait sur la façon dont l'atmosphère évoluait, sur l'arrivée d'une perturbation, par exemple. Voilà.
On a compris que les nuages participaient pleinement au cycle de l'eau sur Terre, mais à côté de ça, ils ont une utilité particulière pour la planète. Ils contribuent à ce qu'on appelle l'équilibre énergétique de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors la Terre, comme tout objet dans l'univers, émet de l'énergie et reçoit de l'énergie éventuellement. Donc la Terre reçoit de l'énergie du Soleil et réémet de l'énergie vers l'espace sous forme infrarouge, dans une quantité qui dépend de sa température. Et la température moyenne de la Terre dépend de ce bilan d'énergie entre ce qui rentre et ce qui sort. Et donc, si autant d'énergie rentre que d'énergie qui sort, la température moyenne est stable. Voilà. Les nuages jouent un rôle important dans cette régulation des échanges d'énergie parce qu'ils ils interagissent avec le rayonnement. À la fois le rayonnement solaire, parce qu'ils réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Les petites gouttelettes d'eau réfléchissent très bien les rayons du soleil, les cristaux de glace également. Donc ils réfléchissent à peu près plus de 20% de l'énergie solaire arrivant sur Terre. Donc de ce point de vue-là, ils font de l'ombre à la Terre, ils refroidissent la Terre. Mais par ailleurs, les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace absorbent le rayonnement infrarouge, donc la chaleur émise par la Terre, et la réémettent à une température plus froide. Donc en fait, l'effet de ça, c'est que les nuages rendent moins efficace la libération de chaleur vers l'espace de la Terre. Et comme une couverture, en fait, qui empêche le corps de se refroidir. Donc ça, les nuages contribuent à l'effet de serre naturel. Voilà. Donc en fait, les nuages ont un effet refroidissant en réfléchissant le rayonnement solaire, mais ils ont aussi un effet réchauffant sur la Terre par le fait qu'ils contribuent à l'effet de serre. Donc c'est un équilibre. Donc ce qu'on sait, c'est qu'au total, ces deux effets ne se compensent pas complètement. À l'échelle de toute la Terre, c'est l'effet de refroidissement qui domine. Donc les nuages tendent plutôt à refroidir la Terre en moyenne.
Les nuages contribuent plus à refroidir la Terre qu'à la
Dans le climat présent, voilà.
Actuellement.
Par contre, la grande question, c'est de savoir si dans un climat qui se réchauffe sous l'effet de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, est-ce que les nuages vont changer de propriété, vont se modifier Et est-ce que ce refroidissement deviendra plus fort ou moins fort ? Mmh. Et un petit changement de ce refroidissement pourrait avoir joué un rôle de rétroaction, on appelle ça, c'est-à-dire modifier la température de la Terre.
Alors ça, on en reparlera juste après, mais je voulais revenir sur ce double mécanisme de réchauffement de la température sur Terre qui est faite par les nuages, et aussi de refroidissement. Ça peut paraître étonnant. Est-ce que, parce que ce sont deux actions contraires, le nuage fait les deux en même temps, ou alors c'est un certain type de nuage qui va contribuer au réchauffement de la température et un autre type de nuage qui va contribuer au refroidissement? Un nuage ne fait pas les deux en même temps. Un même nuage
alors
ne fait
si,
pas
les deux. Les nuages font les deux, mais dans des proportions différentes selon le type de nuage.
D'accord.
Donc, par exemple, les nuages bas, des types petits cumulus ou stratus, stratocumulus, ces nuages-là réfléchissent très efficacement le rayonnement solaire. Par contre, ils contribuent assez peu à l'effet de serre parce que la température à leur sommet n'est pas très différente de la température de la surface de la Terre. Donc, en fait, ils ont un effet refroidissant très efficace.
Par le réfléchissement,
essentiellement du fait du réfléchissement.
C'est un effet miroir, en fait.
Voilà,
un petit peu,
exactement.
Comme si on posait un
miroir. Effet de parasol. Par contre, des nuages très hauts dans l'atmosphère du type cirrus vont pas très bien réfléchir le rayonnement solaire, mais par contre, ils vont avoir un impact assez fort sur l'effet de serre. Et donc, eux, ils vont avoir un effet plutôt réchauffant sur la Terre.
Parce que ces types de nuages sont moins denses, donc plus aérés, donc ils vont laisser passer les rayons du soleil plus facilement, c'est ça,
voilà.
sur Terre.
Et surtout, leur température à leur sommet est beaucoup, beaucoup plus froide parce qu'ils sont très hauts. Et il fait beaucoup plus froid en haut dans l'atmosphère que près de la surface. Donc c'est la température du sommet du nuage qui contrôle essentiellement l'impact d'un nuage sur l'effet de serre.
D'accord.
Donc les cirrus vont avoir plutôt tendance à réchauffer, les nuages bas plutôt à refroidir. Et puis il y a des nuages du type les cumulonimbus, par exemple, qui peuvent former ces enclumes aussi. Eux, ils ont un impact fort sur les deux. Et au total, les deux effets s'annulent à peu près, voilà, à quelque chose près. Voilà, donc en fait, selon les propriétés des nuages, l'impact sur les échanges d'énergie de la Terre sont assez différents. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'observations spatiales, en fait, pour mesurer l'impact net des nuages sur le bilan radiatif, donc sur ces échanges radiatifs, parce qu'a priori, on n'était pas capable de savoir si, quand on considère tous les types de nuages, quel était l'effet qui, au total, dominait, ou est-ce que ça s'annulait, voilà.
Globalement, ça s'annule, mais avec une petite tendance
globalement, refroidissement. Non, globalement, ça s'annule pas, fait essentiellement des nuages bas qui ont un effet refroidissement.
Qui refroidissent.
Tellement fort que, en moyenne, les nuages refroidissent la Terre.
Et alors, comment ça se fait qu'on arrive à ce bilan-là qui penche vers le refroidissement? Parce qu'il y a plus de nuages bas tout simplement, que de nuages hauts.
Et en plus, les nuages bas ont tendance à être assez persistants. Par exemple, au-dessus des océans, notamment les océans qui ne sont pas très chauds. Donc à l'est des bassins océaniques, au large de l'Amérique du Sud, ou bien vers la Californie, ou vers l'Angola. Il y a des zones où l'océan est assez froid et l'air est très stable. Et ça, ce sont des conditions très favorables pour former des stratus ou des stratocumulus, qui sont des nuages bas très étendus, qui refroidissent très, très efficacement.
Les nuages participent aussi à la circulation générale de l'atmosphère et puis les événements extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, à l'intérieur des nuages, il se passe plein de choses. Mmh. C'est des formidables machines énergétiques. La condensation crée une source de chaleur. Et puis, au sein des nuages ou sous les nuages, il peut y avoir de la réévaporation aussi, partielle, des gouttelettes ou des cristaux. Et cette réévaporation, au contraire, va refroidir l'air. Donc en fait, les nuages sont des sources de chauffage ou de refroidissement selon où on se trouve dans l'atmosphère. Et de ce fait, ils affectent les vents, les circulations de l'atmosphère.
D'accord.
Donc les mouvements verticaux, horizontaux. Et donc ils contribuent aux circulations atmosphériques. Donc pendant longtemps, on a vu les nuages comme des traceurs passifs, des simples traceurs des circulations atmosphériques. Et ce qu'on a réalisé plus récemment, c'est que ce sont en fait des acteurs aussi des circulations.
À l'intérieur de ces nuages, il se passe plein de choses.
À l'intérieur de ces nuages, mais avec des effets aussi à grande échelle. C'est-à-dire que selon ce qui se passe dans les nuages, on va pouvoir intensifier, par exemple, très fortement ces circulations sur des milliers de kilomètres. Et quand on change l'intensité des circulations à très grande échelle, ça se traduit immédiatement par des changements dans la distribution des zones de pluie qui peuvent être plus resserrées, par exemple. Mm-hmm. Et donc, on change la distribution des zones sèches et humides en fonction de ce qui se passe dans les nuages. Mmh. Et ça, même à grande distance des nuages, en fait. Hein.
Et sur les événements climatiques extrêmes, quel est leur lien, en fait, avec eux ? Ils peuvent les provoquer ?
Alors, dans les nuages, il y a des mouvements très violents, ascendants, parfois descendants également. Et ces mouvements peuvent être l'origine de dégâts importants à la surface. Hein. Et puis aussi, les précipitations dans les nuages peuvent être très intenses. Mmh. Et particulièrement, lorsque les nuages s'agrègent en amas, ça peut aider à former des précipitations encore plus intenses. Et souvent, les événements extrêmes de précipitations sont liés à des nuages qui se forment en amas, en fait. Et donc, ce qu'on cherche à comprendre, c'est pas seulement comment se forment des nuages individuels, mais également comment les nuages interagissent entre eux et qu'est-ce qui régit leur répartition, en fait. Et une des thématiques de recherche qui nous anime beaucoup et qui nous intéresse beaucoup actuellement, c'est de comprendre ce qu'on appelle l'organisation des nuages, l'organisation spatiale des nuages. Donc, ce qui fait que les nuages se forment de manière isolée ou au contraire vont avoir tendance à avoir un comportement beaucoup plus grégaire et vont former des amas, des lignes ou des choses comme ça. Mmh. Et ça a des impacts sur l'impact radiatif, mais aussi sur l'intensité des pluies et la possibilité de former des pluies extrêmes, par exemple.
Oui, parce que je me rends compte qu'on n'a pas parlé de l'explication de la pluie, mais quand il se met à pleuvoir, en fait, c'est le résultat d'un amas trop concentré de gouttelettes d'eau qui deviennent trop denses,
trop grosses. Quand les gouttelettes sont très, très nombreuses, elles tendent à se cogner les unes dans les autres, et ce phénomène de collision fait grossir les gouttes, et quand les gouttes deviennent très grosses, elles ont tendance à tomber, et ça forme la pluie. Et alors, au cours de leur chute, les gouttes de pluie se réévaporent en partie, particulièrement si elles tombent dans l'air plus sec en bas. Et si c'est de la neige, c'est des cristaux de glace, quand ils sont gros aussi, ils tombent, et ils peuvent fondre au cours de leur chute également.
Alors vous, Sandrine Bonny, vous vous intéressez particulièrement à l'impact du réchauffement climatique sur les nuages. On observe depuis la révolution industrielle un réchauffement de la température de la planète, plus 1,2 degré. Ça, c'est un fait scientifique avéré. Vous nous avez dit tout à l'heure que les nuages contribuent aujourd'hui à plus refroidir la planète qu'elle a réchauffée. Donc, comme ça, a priori, on pourrait dire que c'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte actuel dans lequel nous vivons. Mais ses propres nuages sont aujourd'hui affectés eux-mêmes par le réchauffement climatique. C'est ce que vous essayez de comprendre.
Puisque comme on a vu au début, la formation des nuages dépend des conditions de l'environnement, les conditions de température, d'humidité, etc., des circulations atmosphériques. Et toutes ces choses-là sont affectées lorsque le climat commence à se réchauffer globalement. Tous ces mécanismes sont affectés. Et donc, on peut avoir plus ou moins de nuages selon les circonstances. C'est difficile d'anticiper ça a priori. Voilà, c'est pour ça qu'on étudie la physique des nuages et on utilise aussi des outils comme de la modélisation pour comprendre ces choses-là.
Et est-ce qu'avec vos outils, vous avez pu observer que certains nuages étaient plus sensibles au réchauffement climatique, étaient plus impactés ?
Alors, ça fait un bon moment qu'on utilise des modèles pour étudier cette question. Mmh. Et le problème, c'est que la représentation des nuages dans les modèles reste un très, très grand défi. C'est une des parties des modèles de simulation du climat qui est la plus sensible et la plus fragile. Donc, les modèles nous donnent des réponses, effectivement, qui sont très variables selon les modèles. Et notre travail, c'est d'arriver à déterminer quelles sont les réponses qui paraissent plus crédibles que d'autres et d'améliorer la représentation des nuages également dans les modèles pour avoir des réponses plus crédibles.
Et est-ce que ce seraient les nuages, parce qu'on a parlé des nuages bas tout à l'heure, qui contribuaient au refroidissement de la planète aujourd'hui. Ces nuages bas, aujourd'hui, comment ils sont impactés ? Est-ce qu'on observe qu'ils sont en train de changer, de diminuer à cause de ce réchauffement climatique-là ?
Alors, à partir de l'observation, on a encore du mal à déterminer des tendances robustes, nettes des nuages. Là, sur les dernières années, effectivement, on observe une petite diminution des nuages bas.
Si cette tendance se confirme, ça serait problématique.
Ça tendrait à réchauffer encore plus la Terre. Mais cela dit, à partir d'observation, on a vraiment encore du mal à déterminer des tendances bien claires. On peut regarder ce que disent les modèles qui font des projections climatiques. Et alors là, en termes de comportement des nuages bas, les modèles prévoient des choses très diverses. Et depuis plusieurs dizaines d'années, c'est le comportement des nuages bas dans les modèles climatiques qui est la principale source d'incertitude pour la prévision de l'amplitude du réchauffement. Alors, avec l'avancée des connaissances, on a fait des campagnes d'observation pour essayer de mieux comprendre justement ce qui contrôlait ces petits nuages, etc. Donc, on arrive à mieux déterminer quelles sont les réponses des modèles qui paraissent les plus crédibles oui. ou les moins crédibles. Mais la recherche continue, quoi.
Parce que quand vous dites que les modèles prévoient des réponses très diverses des nuages... Mmh. Qu'est-ce que vous entendez par divers ? Est-ce que ça peut être contradictoire des modèles
Alors,
qui prévoient une certaine chose ?
La plupart des modèles prédisent une diminution des nuages bas, mais dans des proportions différentes. Et les modèles qui prédisaient les réchauffements les plus forts à la fin du siècle étaient les modèles qui avaient tendance à faire disparaître les nuages bas en forte proportion. Par des mécanismes qui ne sont pas forcément très crédibles. Ça, on a pu le montrer récemment. Donc, bon, la diminution ne sera peut-être pas aussi forte que celle qui est prédite par les modèles,
scénario,
par certains modèles en tout cas.
Le pire envisagé est nuancé et a priori, on n'irait pas vers une disparition totale de ces nuages bas.
Non, de toute façon, je ne pense pas qu'il y aura de disparition totale. Hein. La question, c'est de savoir s'ils vont diminuer un petit peu et suffisamment pour avoir un effet sur la température. Mmh. Mais il n'y a pas besoin qu'ils disparaissent globalement pour qu'ils aient déjà un impact sur la température moyenne de la Terre.
On l'a compris, il y a une part d'incertitude énorme en fait dans votre travail qui consiste à réduire cette incertitude du comportement des nuages. Comment vous y arrivez ? Vous avez parlé de modèles de prédiction, c'est ça ? Mm-hmm. Comment ça fonctionne ? Comment vous travaillez ?
Alors, on utilise des modèles, effectivement, pour anticiper ce qui pourrait se passer en changement climatique, mais ça ne suffit jamais, parce qu'un modèle, ça nous donne des réponses, mais on sait que les modèles ne sont pas parfaits. Donc, on a un œil toujours extrêmement critique sur le résultat des modèles. Et avant de prendre un résultat de modèle pour argent comptant, on le soumet, on le crible de tous les doutes possibles.
Oui, on fait plein de tests pour s'assurer que...
Voilà, et donc on essaye de voir si ce que disent les modèles est crédible, notamment en termes de notre compréhension physique. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment fonctionnent les nuages indépendamment des modèles. Mmh. Sur la base plutôt de lois physiques, à la base d'observations, de campagnes d'observation, ou à partir de certains modèles qui sont des modèles de processus, on appelle ça des modèles de nuages. Donc, c'est des modèles qui ne simulent pas l'ensemble de la Terre. Mm-hmm. Ils simulent juste des petits domaines de quelques kilomètres par quelques kilomètres, mais avec une résolution très, très fine. Et donc, ils peuvent représenter beaucoup mieux la formation des nuages et ce qui se passe à l'intérieur des nuages. Donc, ces modèles-là sont très utiles pour comprendre la physique des nuages. Par contre, ils fonctionnent sur des domaines qui sont assez petits. Donc,
c'est très circonscrit.
Pour passer du nuage à la Terre, il y a un pas qu'il faut franchir. Donc en fait, on utilise toute une hiérarchie de modèles pour comprendre et les nuages et le rôle des nuages dans le climat. Donc ces modèles de processus très fins nous aideront à comprendre certains processus nuageux. Si après on veut comprendre l'organisation spatiale des nuages, donc comment les nuages interagissent entre eux, se forment des amas ou pas, ça on va utiliser encore un autre type de modèle, qui ont des résolutions un petit peu plus fines que les premiers modèles dont je parlais, qui ont des résolutions de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, et qui vont pouvoir simuler l'atmosphère sur des domaines un peu plus grands, de quelques centaines à milliers de kilomètres. Et puis ensuite, si on veut regarder ce qui se passe à l'échelle de la Terre entière, on utilise encore d'autres types de modèles.
Et alors, pour établir ces types de modèles, même par exemple à plus petite échelle, comment vous procédez ? Est-ce que vous-même, vous prenez un avion pour aller au niveau des nuages pour pouvoir les observer ? Ou alors, vous passez la majeure partie de votre temps dans un laboratoire ? Comment vous travaillez quotidiennement ?
Alors, ça dépend des
moments.
J'ai passé beaucoup de temps à analyser des simulations numériques. Mais depuis maintenant quelques années, je fais essentiellement de l'observation. Et effectivement, j'ai organisé des campagnes d'observation des nuages avec des avions, avec des ballons-sondes, avec...
Des ballons-sondes ?
Oui, c'est des petites sondes. Donc, il y a des ballons-sondes envoyés par les météorologues, par exemple, pour faire des sondages dans l'atmosphère. C'est des ballons qui s'élèvent et qui mesurent la température, le vent, l'humidité au cours de leur ascension. On peut aussi lâcher des sondes depuis un avion et qui mesurent la même chose, mais pendant leur chute.
Pendant la chute, oui.
Voilà. Et puis, à bord des avions, on a plein d'instruments qui permettent de caractériser les nuages. Donc, on a des sondes qui comptent les gouttelettes, qui comptent les cristaux, qui mesurent les tailles de gouttes et de cristaux également. On mesure la température, l'humidité, le vent, bien entendu. Et puis, on a des instruments de télédétection, donc qui sont des radars, mmh. ou bien des lidars, ou des systèmes lasers, mmh. qui permettent de sonder l'atmosphère à distance. Donc, on le sonde verticalement, vers le haut, vers le bas, ou bien horizontalement, à travers les hublots de l'avion. Et de cette façon-là, on arrive à décrire le champ nuageux sur une certaine distance. Et on apprend plein de choses en recoupant toutes ces observations ensemble. On arrive à mieux comprendre comment se forment les nuages et qu'est-ce qui contrôle leurs propriétés. Mmh. Et donc ça, c'est une connaissance qui est précieuse parce qu'ensuite, ça va permettre de tester ces processus dans les modèles, voir si les modèles font les bonnes choses pour les bonnes raisons, ouais. et éventuellement même d'améliorer la façon dont les nuages sont représentés dans les modèles.
Et entre le début de votre carrière et aujourd'hui, vous avez constaté une évolution importante de ces outils-là. Il y a eu de grands progrès.
Ouais. À la fois, oui, dans l'observation et dans la modélisation. Quand j'ai commencé ma thèse, au laboratoire, il y avait un modèle de simulation du climat qui était en développement. Mmh. Et à la fin de ma thèse, je crois qu'il arrivait tout juste à simuler un cycle saisonnier, donc un an de simulation. Alors que maintenant, bon, les modèles font des simulations très longues, répétées, etc.
Et puis
ils sont beaucoup
plus
perfectionnés aussi, ils ont une physique qui s'est bien améliorée. Au niveau de l'observation spatiale aussi, j'avais quelques années d'observation des flux radiatifs au sommet de l'atmosphère, par exemple, pour étudier l'impact des nuages sur le bilan radiatif. Alors qu'aujourd'hui, on a plusieurs décennies d'observation spatiale et puis de plein de grandeurs différentes. Enfin, on est comme dans un magasin de bonbons, quoi, maintenant. On a plein d'observations, plein de simulations. On a des modèles qui peuvent aussi tourner à des échelles très, très fines et sur des domaines de plus en plus grands, ce qui nous permet de comprendre, même parfois de découvrir des mécanismes qu'on n'avait pas anticipés. Mmh. Par exemple, ces mécanismes d'auto-agrégation des nuages.
Comme vous expliquiez tout à l'heure.
Qui sont assez fascinants et qu'on essaie de comprendre. Donc oui, les outils évoluent énormément.
Mmh.
Et notre compréhension des nuages a beaucoup évolué, heureusement.
Depuis les années 70, et heureusement. Donc, des progrès fantastiques, mais toujours beaucoup d'incertitudes aujourd'hui.
Il reste bien sûr des incertitudes, mais comme toujours, que ce soit en matière de climat ou d'autres choses, on a un ensemble de connaissances. Certaines connaissances sont très bien établies, sont solides, etc. Et puis, il y a des incertitudes. Et c'est la présence de ces incertitudes ne remet pas en question les connaissances qui sont solidement établies. Donc, par exemple, dans le cadre de la réponse des nuages au réchauffement, il y a des aspects de cette réponse qui sont déjà bien comprises et bien établies. Par exemple, le fait que dans un climat plus chaud, ben les nuages hauts, par exemple, tendront à se former plus haut. Ça, on comprend très bien pourquoi physiquement, et c'est reproduit par tous les modèles parce que ça résulte de physique de base, etc. Et puis, il y a d'autres aspects des nuages, des propriétés nuageuses qu'on sait moins bien comprendre. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille.
Merci beaucoup, Sandrine Bonny, pour toutes ces explications. J'invite les auditeurs à regarder les actualités de l'Académie des sciences, dont vous faites partie, Sandrine Bonny, qui organise régulièrement des conférences destinées au grand public. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup.
Les podcasts de l'Institut de France.